Chers frères et sœurs, la grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de Dieu notre Père selon ce que le Christ Jésus a incarné durant son ministère. Voilà, frères et sœurs, un temps de culte pour nous réjouir de cette vie que nous avons, qui est parfois traversée par des sentiments contradictoires, mais qui est appelée au bonheur et à la grâce. Voici le temps de culte qui nous permet de nous rappeler cette espérance qui nous anime, ou plus exactement, qui devrait nous animer. Chantons en nous levant la première strophe du psaume 81 pour que ce soit bien nos chants joyeux qui l'emportent sur toute autre considération. Nous louons Dieu. Oui, louange à toi, Seigneur, car aussi riche qu'était ton Fils, il est devenu pauvre pour nous rejoindre au plus intime de notre condition humaine. Louange à toi, Seigneur, pour les larmes que tu as suscitées en ton Fils devant la tombe de son ami Lazare. Tu nous as rejoints dans nos propres deuils pour essuyer toutes larmes de nos yeux. Louange à toi, Seigneur, car tu nous donnes le courage de résister à la force et à la violence. Tu nous donnes le courage d'être véritablement artisans de paix. À travers ton Fils, tu as partagé nos épines et nos échecs. Et ainsi, tu nous as montré un chemin tout à fait opposé au désespoir, à la lassitude et à la résignation. Louange à toi, Seigneur, car tu as annoncé le royaume pour désaltérer notre soif de justice, et ton Fils l'a vécu. Non pas comme un idéal inaccessible, mais comme la vérité de son existence. Louange à toi, Seigneur, car tu es miséricordieux. À travers ton Fils, la grâce s'est manifestée dans toute sa splendeur. Louange à toi, Seigneur, qui permet de transgresser les frontières sociales, religieuses et toutes ces cloisons que les hommes et les femmes ont tendance à monter pour séparer ce qu'ils considèrent le bon grain de l'ivraie. Ainsi, ton Fils nous a-t-il révélé que la seule pureté qui compte, c'est la pureté du cœur. Louange à toi, Seigneur, car en inspirant à ton Fils cette dynamique du pardon, y compris pour ses bourreaux, tu mènes le combat pour la paix universelle. Louange à toi, Seigneur, qui nous a donné ton Fils Jésus-Christ. Par lui, tu as ouvert les voies d'une irréductible espérance. Amen. Frères et sœurs, profitons du psaume 138, aux strophes 1, 2 et 3 du psaume 138. Nous aurons la mélodie et les mots pour poursuivre notre louange.
Thank you.
prenons place et nous reprendrons le psaume 81 pour ponctuer la suite de notre culte. Nous nous recueillons dans la prière de repentance. Seigneur, j'ai besoin de déposer devant toi le fardeau de mon péché. J'ai besoin que cessent toutes ces excuses par lesquelles je me trompe moi-même. J'ai besoin de ton regard, de ta présence pour m'observer en vérité et avec bienveillance. C'est cette relation de confiance, cette foi qui me permet de reconnaître ma condition véritable. Et voilà qui me pousse à demander pardon. Pardon pour ma tiédeur. Pardon pour mes lâchetés. Pardon pour mon égoïsme et pour mon orgueil. Pardon pour toutes ces fois où je me suis acharné à faire ma volonté et non la tienne, à ne pas tenir compte des besoins de mes frères et sœurs. Oui, pardon pour mon manque d'amour envers ceux qui m'entourent, ce qui se traduit parfois par des condamnations, par des paroles blessantes à leur égard, par un manque de considération de ma part à leur endroit. Et puis, pardon de n'avoir pas vécu de ta liberté, de n'avoir pas exercé cette responsabilité dont je suis rendu capable. Pardon de n'avoir pas travaillé pour une société juste où la paix règne en maître. Seigneur miséricordieux, pardonne-moi et encourage-moi sur cette voie d'une vie menée en toute liberté et donc en toute responsabilité. Je me confie en ta grâce et j'attends ton salut et ton règne sur mon existence. Amen. Restons assis pour chanter la troisième strophe du psaume 81. Psaume 81, troisième strophe. En réponse à notre prière, voici quelques paroles de grâce. Ce sont des paroles du docteur Albert Schweitzer. Je garde ce côté un peu imprécatif qui était le sien en vous disant ceci. Que te soit annoncée la paix de toutes tes luttes intérieures. Oui, paix aux hommes que Dieu agrée. Qu'une paix te soit annoncée à toi qui es tourmenté et oppressé. Et ainsi, qu'au monde tu sois soustrait pour trouver en Dieu la paix véritable. Oui, frères et sœurs, Nous sommes appelés à la paix véritable. Non pas comme une perspective qui pourrait un jour nous arriver, mais comme une donnée de départ. La paix nous est donnée. Nous pouvons désormais en vivre. Levons-nous pour chanter notre reconnaissance par la quatrième strophe du psaume 81. Et avec cette exhortation qui retentit dans le livre du Deutéronome, à la toute fin, entendons que Dieu met devant nous la bénédiction et la malédiction, la mort et la vie. En général, Dieu nous laisse libres, mais là, c'est une liberté somme toute assez mitigée, puisqu'il nous dit « Choisis la vie ». Est ce qui fait vivre. Choisis la vie et ce qui fait vivre. Voilà, frères et sœurs, cette exhortation qui retentit de génération en génération, qui au fond n'a rien d'original, si ce n'est que parfois nous prenons conscience du fait qu'il est possible de vivre. Et je reprends une fois de plus cette formule de Paul Ricoeur, qu'on interrogeait sur la question de la vie éternelle. Sous-entendu, « Monsieur Ricoeur, parlez-nous un peu de la vie après la mort. » Et il répondait, « Voyez-vous, je suis assez séduit par la foi chrétienne. Je suis assez séduit par le fait qu'il y ait une vie avant la mort. » Frères et sœurs, voilà notre programme, ne pas oublier de vivre. Dire oui à la vie, c'est dire oui à Dieu, dire oui à cette parole qui retentit dans les textes bibliques, c'est exprimer notre foi, et nous pouvons ce matin l'exprimer en ces termes. Je crois en un Dieu Père, dont la parole soutient la vie des hommes et oriente leur histoire vers la vie, c'est-à-dire vers le bonheur, vers la paix, la justice. Je crois en son Fils, né parmi les pauvres, lumière dans notre propre nuit, premier-né d'entre les morts pour ressusciter notre goût de la vie. Il est vivant. Je crois en l'Esprit Saint, qui fait naître en nous la vie selon l'espérance de Dieu, qui anime le combat pour la justice et qui nous conduit inlassablement dans l'espérance. Il est notre force pour vivre. Je crois à la Sainte Église universelle, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre et audacieux. Elle nous enfante à la vraie vie. Je crois la résurrection dans l'imminence d'un monde nouveau où Jésus-Christ, notre Seigneur, sera maître de la vie. Pour toutes et tous. Amen. Frères et sœurs, ouvrons notre recueil de chants au cantique 544 pour y chanter les strophes 1, 2, 3 et 4 du cantique 544.
Thank you.
place et nous rechanterons encore une strophe du psaume 81 ensuite. Seigneur notre Dieu, ta parole est comme le ciel. Élargis-nous en elle pour que nous découvrions la hauteur, la largeur et la profondeur de tout ce qui est. Amen. C'est à l'apôtre Paul que je laisse le soin de faire œuvre de révélation pour ce matin dans l'Épître aux Romains. Au chapitre 14, je vais vous lire les 19 premiers versets. C'est toujours frappant de voir à quel point notre cher Paul est d'une actualité confondante. On pourrait penser que c'est un pasteur qui s'adresse à sa communauté, pas forcément simplement communauté ecclésiale, nous le verrons. Voici ce que dit l'apôtre Paul. « Faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi, sans discuter des opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Car Dieu lui a fait bon accueil. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. Tel juge un jour supérieur à un autre, tel autre les juge tous égaux. Que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. Celui qui se préoccupe des jours s'en préoccupe pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. Car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Il rend aussi grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne jugeons donc plus les uns les autres. Usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant vous un frère et en faire une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un estime qu'une chose est impure, alors elle est impure pour lui. Si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Ce qui est bien pour vous ne doit pas être un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Chantons, frères et sœurs, la cinquième strophe de notre psaume 81 en restant assis. Chers frères et sœurs, ce que l'apôtre Paul nous propose ici, c'est ce que nous appelons aujourd'hui une société multiculturelle. L'Église, selon Paul, est une société multiculturelle. C'est une société qui est constituée par une multitude de personnes ayant des cultures différentes et par conséquent des manières différentes non seulement de vivre, mais aussi de dire leur foi pour rester au domaine ecclésial. L'Église que Paul a suscitée, c'est une Église multitudiniste, c'est-à-dire une Église où coexistent une multitude de personnes singulières, différentes les unes des autres, sans que l'une et prévalence sur l'autre. Toujours dans le domaine ecclésial, cela signifie qu'il y a non seulement des gens à la fois bien affirmés, que ce ne soit pas une occasion pour aller brailler l'Évangile dans le tramway, ou au contraire, des gens à la fois balbutiantes, si ce n'est chancelantes, ou l'hésitation l'emporte souvent sur l'affirmation. La société ecclésiale de Paul, c'est une société qui peut nous inspirer en paroisse, mais aussi dans toutes les autres sociétés dont nous sommes membres. Qu'il s'agisse d'une nation, d'un immeuble, d'une association, d'une entreprise ou encore d'une famille. Paul nous aide à réfléchir ce qui fait société. Alors à mon avis, et c'est pour cela que j'ai choisi ce texte pour aujourd'hui, Paul écrit ce passage au début du carême, alors que la communauté de Rome est sur le point de se déchirer entre ceux qui considéraient que carême doit être une période maigre, où l'on mange peu, pour faire plus de place à la parole de Dieu, et entre ceux qui considéraient que le carême doit être l'occasion de bien se nourrir pour être en pleine forme à Pâques et ainsi accueillir l'évangile de la résurrection. C'est le vieux conflit entre saucisses grillées ou pas saucisses grillées. Ça remonte à Zwingli, cette affaire. Vous vous souvenez, si vous avez vu le film il y a 15 jours. Paul renvoie les clans dos à dos. Personne n'a raison contre l'autre. Les deux attitudes peuvent coexister dans la mesure où chacun agit pour de bonnes raisons. Au fond, nous pourrions le dire avec la remarque que faisait le théologien protestant Søren Kierkegaard. Bien des problèmes viennent de ce que les gens mettent des « ou », la conjonction de coordination « ou », là où il faudrait mettre des « et ». Ce sera donc fromage et dessert. Ce sera croyant depuis toujours et néo-converti. Ce sera homme et femme, petit et grand, ancien et nouveau-né. Certainement aimerions-nous que tout le monde s'aligne sur notre manière de penser, notre manière de faire. Après tout, si nous agissons d'une manière, c'est parce qu'il nous semble que c'est quand même la meilleure manière de faire. Et nous qui avons un goût prononcé pour la vérité, nous aimerions que nos frères et sœurs n'errent pas dans le mensonge ou la méconnaissance. Et donc, nous voudrions qu'il se rallie à notre position. Quand quelqu'un arrive dans une paroisse et qu'il ne fait pas comme les autres, ça se voit. Et c'est quand même rarement vécu avec enthousiasme. Disons que cela pose moins de questions quand tout le monde se lève en même temps pendant le culte pour chanter ou pour tel moment de la célébration. Disons que ça se passe mieux quand, lorsque nous faisons le cercle pour la célébration de la scène, il n'y en a pas qui restent au centre du cercle. Disons que ça va mieux quand tout le monde chante en même temps en suivant l'organiste ou la pianiste. Et on trouve que c'est quand même beaucoup mieux quand tout le monde dit le Notre Père non seulement de la même manière, mais au même rythme. Sauf en christianisme. Au fond, cette façon d'apprécier une société n'est pas la nôtre. En tous les cas, ce n'est pas notre idéal. Ce n'est pas ce vers quoi nous avons le désir de converger. Parce que ça, c'est une société qui favorise le mimétisme, c'est-à-dire l'art et la manière de faire la même chose que le voisin. Le film Le cercle des poètes disparus le montre très bien quand le professeur de lettres va avec ses élèves dans la cour du lycée et leur donne pour seule consigne de marcher dans la cour. Et en quelque temps, tout le monde finit par marcher au pas. En perspective protestante, c'est assez insupportable. Ces phénomènes mimétiques, qui sont aussi des phénomènes de masse, sont une des caractéristiques des sociétés, des groupes, des communautés dont les membres ont tendance à suivre la majorité. Et du coup, tout le monde s'habille de la même manière, tout le monde écoute la même musique, etc. Ça, ce n'est pas la société de Paul. Ce n'est pas la société chrétienne rêvée. Au risque de me fâcher avec quelques-uns parmi vous, il est possible d'être paroissien de Maguelone sans tomber en pâmoison devant Johann Sebastian Bach. On peut même préférer Mozart. Parce que, selon ce que développe l'apôtre Paul, il n'est pas question de faire société en uniformisant les pratiques, les attitudes ni les discours. Une église n'est pas une machine à broyer les particularités, mais un lieu pour favoriser non seulement le respect des personnes, mais en vérité l'épanouissement de leur personnalité. Il ne s'agit pas de dire que tout se vaut, que toutes les pratiques sont les bienvenues, car Paul le dira dans l'Épître aux Corinthiens, tout n'édifie pas. Tout n'est pas fait pour le Seigneur. Mais quand quelque chose est fait pour le Seigneur, alors qui suis-je pour juger l'autre au sens de le condamner et de lui reprocher son attitude? Paul n'était pas du genre à tout tolérer. Vous savez, vous ne savez pas, mais nous avons dans notre liturgie officielle un petit bout de prière d'intercession extrêmement malheureux, qu'on n'emploie jamais parce qu'il est anti-paulinien. C'est une prière qui dit « Seigneur, aide-nous à accueillir mon prochain avec toutes ses différences. » Mais alors quoi ? On accueille les gens qui pratiquent aussi l'excision avec réjouissance ? Non, pas toutes les différences. Tout ne se vaut pas. Il ne s'agit pas non plus de choisir une manière d'être et d'aligner tout le monde dessus. Au fond, l'apôtre Paul nous rend attentifs au fait qu'une société est constituée de personnes qui ne sont pas toutes et tous au même niveau de leur parcours d'humanité. Et une société ecclésiale peut s'enorgueillir d'être une société où chacun est accueilli de manière inconditionnelle, quelle que soit l'étape à laquelle il se trouve sur son chemin de vie. Nous n'en sommes pas tous au même niveau de notre parcours de découverte de la foi, qui grandit en nous chaque jour. De même, on ne va pas demander à quelqu'un qui commence à faire du sport de courir la semaine suivante un marathon. On ne va pas demander à quelqu'un qui découvre la foi de vivre tout ce qui lui arrive avec la même agilité que quelqu'un qui est fils de protestant, petit-fils de camisard, arrière-petit-fils de galérien et arrière-arrière-petit-fils de prédicant. Il y a donc une raison théologique au fait que nous considérons qu'une société est toujours multiculturelle, c'est que nous avons toutes et tous une histoire personnelle qui ne doit pas être rayée ni sacrifiée sur l'autel du bien commun. Nous sommes respectés dans notre rythme personnel, car c'est de nous dont il s'agit, et non pas d'une image idéalisée du croyant. Paul s'adresse à des êtres réels, pas à une communauté fantasmée. La deuxième chose qui fait qu'une société est multiculturelle d'un point de vue théologique, c'est que Dieu institue des personnalités et non pas une société anonyme. C'est tout le sens de l'épisode de Babel en Genèse 11, dont on pense à tort qu'il s'achève par une punition de Dieu. Babel, c'est cette société des hommes qui veut construire cette grande tour pour atteindre Dieu. Et au fond, atteindre Dieu, c'est plutôt un beau projet. Mais le texte précise qu'ils avaient une seule langue et voulaient se faire un seul nom. Il est là le problème. Une seule langue, c'est-à-dire un seul psychisme, et donc une seule personnalité, et un seul nom, c'est la société anonyme. Que fait Dieu ? Il multiplie les langues. Ce n'est pas une punition, chers frères et sœurs, c'est une grâce. La punition, c'est quand nous parlons tous la même langue, et qu'au prétexte que nous parlons tous le même idiome, nous avons cette folle idée de penser que nous nous comprenons. Comme si Dieu désignait la même chose pour chacun d'entre nous, et ainsi de suite. Première chose, donc, ne pas condamner ceux qui ne font pas ce que je fais, parce qu'au fond, en faisant autre chose que ce que je fais, ils affirment leur personnalité. Et ça, c'est proprement divin. Néanmoins, nul ne vit pour lui-même. Paul explique cela avec une phrase qui peut être le verset à retenir de ce passage, mais au fond, chacun choisira bien le verset qu'il veut pour synthétiser ce passage biblique, sinon je vous infligerai ce que je suis en train de combattre. Au verset 7, l'apôtre Paul écrit « Nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même ». Après le fait qu'une société chrétienne est pluraliste, le deuxième aspect caractéristique est la finalité extérieure de la vie et de la mort. Ça signifie qu'il n'y a pas de principe égoïste qui devrait guider notre vie, du moins dans une perspective chrétienne. Nous ne sommes pas auto-fondés, pour le dire autrement. On ne vit pas pour soi, on ne fait pas des enfants pour se survivre. On ne fixe pas les règles et les lois pour se faire plaisir. Nous vivons pour le Seigneur, dit l'apôtre Paul. Cela signifie, c'est une vérité théologique, cela signifie que notre raison d'être est extérieure à nous. Il peut y avoir d'autres affirmations théologiques qui diraient l'inverse. Le panenthéisme dirait que notre raison d'être est en nous, car nous avons en nous un bout de Dieu. pour le dire de façon un peu caricaturale. Et ça, je pense que c'est un peu la porte ouverte à une forme d'égocentrisme qui impose aux autres notre perspective personnelle. Spinoza était panenthéiste, ça ne l'a pas empêché d'être un homme assez raisonnable, mais je pense que c'était un faux panenthéiste, en fait. Bon. Je referme la parenthèse pour en débattre à l'occasion. Retenons que la finalité de notre existence est extérieure à nous en perspective chrétienne. Tout le monde ne partage pas donc ce point de vue. Bien des personnes considèrent que nous vivons pour nous et rien que pour nous, selon le principe de plaisir. Mais en christianisme, le paradigme, c'est que nous vivons pour le Seigneur. C'est une manière de dire que notre vie propre, n'est pas le seul critère à partir duquel nous allons faire des choix dans la vie. Dans la mesure où le Seigneur, l'Éternel, est le Seigneur de tous, et c'est là que l'idée du monothéisme change la donne. En monothéisme, le Seigneur est le Seigneur de tous, et pas de notre petite paroisse exclusivement. Alors, il est aussi le Seigneur de l'autre, le Seigneur de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger, pour reprendre les catégories du Deutéronome. Il est aussi le Dieu qui libère de l'esclavage. Il est le Dieu qui appelle les êtres humains à répondre aux défis que nous lance la vie. Ainsi, vivre pour le Seigneur, c'est vivre en intégrant ces différentes caractéristiques dans notre propre existence et à faire une éthique personnelle informée par ces caractéristiques-là. Dieu change notre éthique. Le Dieu que nous avons a un impact sur notre éthique. Disons-le avec une formule de philosophie politique, le chrétien s'occupe de l'intérêt général. Le chrétien s'occupe de l'intérêt général. Le chrétien ne se préoccupe pas simplement de sa pomme, mais aussi de l'intérêt général, de ses prochains, qu'ils soient glorieux croyants, qu'ils soient faibles dans la foi ou mécréants patentés, qu'ils confessent leur foi de manière tonitruante ou qu'ils n'aient pas les lèvres particulièrement circoncises à ce sujet. Nul ne vit pour lui-même, notre finalité est hors de nous. Ce qui signifie que nous ne sommes pas notre propre mesure. L'homme n'est pas la mesure de l'homme, au sens de l'individu. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une vie qui consisterait à satisfaire nos envies, à satisfaire nos élans. Il y a un projet infiniment supérieur qui peut nous animer en perspective chrétienne et que Paul énonce en ces termes au verset 17 et au verset 19. Le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Autrement dit, l'apôtre Paul récuse que le christianisme soit une philosophie du plaisir personnel. Vous avez entendu, il parle de joie, donc il n'évacue pas le plaisir. Mais le plaisir personnel n'est pas un critère éthique. Je ne peux pas faire abstraction du plaisir de l'autre dans l'élaboration de mon propre plaisir. Le christianisme n'est pas un hédonisme au sens où la vie consisterait à boire, à manger, de manière plus large, à satisfaire les plaisirs de notre corps, à éviter la souffrance. Dans l'hédonisme, il y a aussi le fait d'éviter la souffrance. Et ça, ce n'est pas tout à fait notre perspective, parce qu'évidemment, on ne va pas se mentir, l'autre est une cause de souffrance. L'autre nous fait suer. En essayant de rétablir la phrase de Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres, au sens où nous n'arrivons pas à avoir une relation en profondeur avec l'autre. Au sens où l'autre n'est que celui qui me pompe l'air et qui ne peut pas être pour moi un interlocuteur de choix. Mais précisément, tout le sens du christianisme et de cette théologie paulinienne consiste à observer dans la singularité de l'autre ce trésor de vérité humaine qui jusque-là me fait défaut. Paul, en indiquant que nul ne vit pour soi, oriente donc notre compréhension de la vie en direction de l'intérêt général qui se construit par la paix entre tous, par l'édification mutuelle et la justice. Et cette finalité est extérieure à nous. C'est la justice selon l'intérêt général et pas selon ce qui m'arrange. Cette finalité extérieure à nous est décisive car c'est elle qui donne le sens de nos actes. C'est elle qui donne le sens de notre manière de vivre. En effet, comme le dit l'apôtre Paul, un acte est neutre en soi. Rien n'est impur en soi, dit-il. Une chose n'est ni bonne ni mauvaise. C'est la finalité qu'on va lui donner qui donne du sens à cette chose. Et du coup, si nous n'avons jamais de finalité, alors nous ne donnons jamais le moindre sens à ce que nous faisons. Et du coup, on tourne en rond, on se lasse et on est frustré parce que ce que nous vivons n'a aucun sens. Alors, ça peut aller quand on est enfant de n'avoir aucun sens à la vie, mais au bout d'un moment, ça devient une bonne source de burn-out. Et ça, il vaut mieux l'éviter. Sans finalité, il n'y a pas de sens à ce que nous faisons et nous sommes le plus malheureux des hommes, nous dira l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Sans finalité, une société devient dépressive. Elle ne peut que s'effondrer. Si la seule raison d'être est de vivre pour soi, alors, nous ne faisons que lutter contre la mort. Nous ne faisons que lutter contre la disparition. Nous ne faisons qu'une chose, c'est maintenir la possibilité de satisfaire notre plaisir personnel. Et donc, nous ne faisons que lutter contre la mort. Quand l'Église s'évertue à ne pas disparaître, qu'elle oriente toutes ses actions pour sauver sa peau, elle se vide de sa substance et ensuite, elle se vide de ses paroissiens. Ainsi en va-t-il de toute société humaine. Quand le seul objectif, c'est de ne pas mourir, on oublie de vivre. Et moi, je suis aussi assez séduit par l'idée qu'il y ait une vie avant la mort. Il y a plus que cela. Si nous n'avons pas de finalité extérieure qui nous attire, nous et nos contemporains, s'il n'y a pas ce grand débat, ce grand conflit des finalités pour dégager une finalité encore supérieure à celle qui nous anime, alors la vie devient une guerre des égos. Si nous ne vivons qu'en fonction de nos instincts individuels, nous entrons en conflit permanent les uns avec les autres. C'est comme conduire en ville sans la finalité qui est de fluidifier la circulation de tous les habitants, quel que soit leur mode de locomotion d'ailleurs. Si nous ne sommes pas animés par des finalités communes, qui nous sont donc extérieures, la vie en commun n'est pas autre chose qu'un rapport de force. C'est la guerre de tous contre tous en permanence. Cela provoque au début un peu de fatigue et de lassitude. Cela finit par des morts et des blessés qu'on laisse sur le bord de ce chemin de conflit permanent. Et au fond, c'est à cela que l'apôtre Paul nous rend attentifs. Dans toute société, qui n'est pas animé par un principe de pureté qui éliminerait tout ce qui est divergent, tout ce qui est hérétique, tout ce qui est discordant. Dans une société multitudiniste, il y a donc des forts et des faibles. Cette dialectique des forts et des faibles permet à Paul de développer une proposition théologique pour donner un avenir à toutes nos sociétés humaines. D'une part, en faisant prendre conscience que la pluralité des mœurs n'est pas la cause d'un échec d'une société, ni la raison future de son effondrement, au contraire. Une société multitudiniste est une société selon l'espérance de Dieu. Et l'espérance de Dieu, c'est la vie. Le christianisme valorise la personnalité. Et une société multitudiniste permet à la personnalité de pouvoir faire valoir ses droits. D'autre part, Paul révèle l'importance que notre foi nous relie à des finalités extérieures qui, au lieu de nous jeter tous dans la fosse commune, ce que favorise la guerre de tous contre tous, au lieu de nous jeter tous dans la fosse commune, permettent la vie en commun. Et au fond, finissons par là. C'est la question de l'unité qui est en jeu. En perspective chrétienne, l'unité ne consiste pas à éliminer tout ce qui sort de la norme qui a été fixée par quelques-uns. Le principe de l'unité, qui a été développé notamment par Oscar Kuhlmann, c'est de considérer que l'unité se fait dans la pluralité ou dans la diversité, le fameux « e pluribus unum ». Pour qu'il y ait le « un », il faut que toutes les parties soient là. Il faut que toutes les fractions soient ajoutées les unes aux autres. Le « un », ce n'est pas l'unicité, c'est bien l'unité de toutes les parties. Voilà ce qu'il nous reste à faire pour les mois à venir, chers frères et sœurs, selon la formule consacrée, au boulot. Amen. Thank you. Vivre pour le Seigneur, c'est être tendu vers cet idéal de vie que Dieu désigne. Et le cantique 620 aux strophes 1, 2 et 3 sera l'occasion pour nous d'être tendu vers cette espérance divine. Levons-nous pour chanter Dieu. Place pour échanger quelques informations. À l'issue du culte, les rideaux s'ouvriront et il n'y aura pas l'arche d'alliance, parce qu'elle a été volée par les Philistins, mais un verre fraternel qui nous donnera l'occasion de nous réjouir les uns les autres, de faire connaissance. Il y a également, à la sortie du temple, une table sur laquelle il y a deux cartes avec une feuille sur laquelle vous pourrez signer. La première, c'est la carte pour Barbara Wolfram, dont c'est aujourd'hui le 83e anniversaire et qui ne peut plus sortir de chez elle. Alors, en mettant un petit mot, j'irai tout à l'heure lui remettre ce petit message de votre part, Barbara Wolfram. Et puis, il y a une autre carte pour notre centenaire, Françoise Lecomte, dont ça va être le centenaire. Et elle est avec nous aujourd'hui. Alors, vous pourrez quand même lui écrire un mot, mais je pense qu'on pourrait lui souhaiter un bon anniversaire avec notre chant mélodieux. Alors, je ne sais pas si on se fait accompagner ou pas, ou si on le fait a cappella, on peut le faire aussi.
Joyeux anniversaire, Françoise, joyeux anniversaire.
Voilà. Il serait peut-être bien que votre petite fille vous aide à vous lever pour qu'on puisse... vous repérez, tout le monde ne vous connaît pas forcément, et comme ça, on pourra vous saluer. Voilà. Voilà. Et donc, il y a, à la sortie du temple, de quoi écrire un petit mot pour vous dire tout notre amour. Vous avez... Le problème, François, c'est qu'on ne va pas vous entendre. Alors, à la fin du culte, vous démultiplierez tous les petits mots de reconnaissance que vous voulez bien. Et on pourra comme ça peut-être même vous embrasser. Bien. Vous avez donc sur la feuille d'annonce l'ensemble des rendez-vous pour les deux semaines qui viennent, puisque ce sont les congés scolaires. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a mercredi un office d'entrée en carême qui sera célébré au centre œcuménique de Jacou. Et dimanche, le culte sera célébré par Philippe Gallès, qui est étudiant en théologie. Mais rassurez-vous, je suis avec vous tous les dimanches jusqu'à la fin du carême, puisque sur France Culture, vous aurez le plaisir ou le devoir, l'un n'est pas forcément incompatible avec l'autre, d'écouter les conférences de carême, c'est à 16h sur France Culture, donc pour les 6 dimanches de carême. Et autant la thématique vous est familière, puisque ça sera une théologie de l'incandescence, Dieu, ce qui porte notre vie à son incandescence, mais j'ai choisi 6 textes bibliques pour aborder 6 thématiques qui vous sont familières sans que vous ayez le détail. Voilà, ce n'est pas des répétitions de ce que je vous aurais dit, c'est tout à fait original. Comme ça va être assez dense, je pense, je n'avais qu'une demi-heure. Vous pourrez ensuite faire l'acquisition du livre qui sera publié chez Olivetan, comme ça, publicité gratuite. Vous pourrez y revenir tranquillement, parce que ça va aller vite, hein, parce que c'était en plus pendant les grèves, donc il fallait comprimer pour que ça tienne en une journée. Courage, courage mes amis, ça va bien se passer. C'est maintenant le moment de l'offrande. Alors, à la fois, je vous exprime notre reconnaissance parce que les dons que vous avez faits en ce début d'année sont tout à fait encourageants par leur quantité. La qualité y est toujours, mais la quantité est à la mesure de nos besoins. Je vous rends juste attentif au fait que la facture d'électricité et de gaz va bientôt arriver et qu'il y a tout lieu de penser qu'elle va connaître une petite augmentation substantielle pour des motifs extérieurs à notre bonne volonté. Voilà, si vous pouvez en tenir compte, ça ne sera que mieux pour nous. Pour le reste, c'est votre responsabilité. Merci beaucoup. Les uns aux autres, dans l'amour de Dieu, nous prions maintenant les uns pour les autres. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas vivre simplement pour nous. Nous voulons vivre pour toi, c'est-à-dire intégrer les prochains que tu nous indiques dans notre propre horizon. Et cela nous conduit à prier pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont victimes de la guerre et de l'injustice. Ceux qui ont faim ou froid. Ceux qui pleurent et ne trouvent pas de consolation. Ceux dont la conscience est chargée et qui ne trouvent pas le pardon. Ceux qui te cherchent, peut-être sans savoir ton nom, et qui ne t'ont pas encore trouvé. Ceux qui sont forts, ceux qui sont faibles, quel que soit le domaine dans lequel cette force et cette faiblesse se manifestent. Nous prions pour tous les êtres qui nous sont chers et pour ceux que nous avons du mal à aimer. Tous ces êtres que nous nommons dans le secret de notre cœur. À tous, donne la paix. Et pour ce faire, donne-nous d'être les artisans de ton amour, des agents de ta grâce. Et nous voulons être ces artisans et ces agents en ayant pour finalité cette perspective que nous révèle cette prière que Jésus a laissée à ses disciples et que nous reprenons à notre compte, en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. » Levons-nous, frères et sœurs, pour recevoir la bénédiction de Dieu. Frères et sœurs, le Dieu d'amour nous permet de mieux nous comprendre, de mieux nous aimer les uns les autres, afin que, d'un même cœur et d'une même voix, nous puissions ensemble célébrer la vie portée à son incandescence, selon ce que le Christ Jésus a incarné pour nous tous. Amen.